jeudi, alors je ne sais même plus quelle est la date, c'est le 20 décembre, oui. Donc, vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire, hein, peut-être la première émission en direct, puisque, à moins que l'émission précédente ait fini un peu plus tôt. Voilà, alors Chronique Hebdo, le retour, puisque la semaine dernière, nous avons eu un petit empêchement, hein, ça arrive quelquefois, nous ne sommes que des humains, et au dernier moment, on a eu un petit problème qui nous a empêchés de venir. Et donc, on sait, vous avez été malheureux, mais enfin, surtout, vous avez pu faire autre chose que d'écouter notre émission et peut-être découvrir des talents et réfléchir un petit peu tranquillement. Voilà, alors aujourd'hui, nous sommes deux dans le studio, simplement Jacques et Gérard. Ben, Gérard, il en a peut-être marre qu'on parle de lui dans la presse, parce que le nom de Gérard, le prénom de Gérard, nous serine.
Quand tu dis nous sommes que deux, c'est Josie et Jacques qui t'as dit Jacques et Gérard. Gérard n'est pas là.
Oui, Gérard n'est pas là. Oui, j'ai dit autre chose. Bon, je me réécouterai.
Non, mais continue sur les Gérards.
Oui, oui, j'ai juste dit que Gérard n'était pas là. Sans doute, il en a marre qu'on parle de lui, de son prénom, quoi. Puisque donc en ce moment la presse nous serine avec le gros Gérard qui doit bien justement par sa taille et par ses conneries cacher pas mal d'autres soucis. Et puis il y avait aussi une autre chose rigolote, c'est que vous savez qu'il y a un truc qui s'appelle l'Académie des Gérards, et l'Académie des Gérards distribue des légions d'honneur, par exemple la légion d'honneur d'honneur, alors D'HONEUR, et elle délivre donc des légions d'honneur à des donneurs, alors ce coup-ci d'un seul mot, hein, D-O-N-E-U-R-S, des donneurs de leçons. Et c'était, dernièrement, c'est Audrey Pulvar et, je sais plus son prénom, Natacha Polony, qui ont eu droit à ces titres délivrés par l'Académie des Gérards. Donc voilà pour Gérard, et voilà pour... en fait, il n'est pas là. On le salue quand même, parce qu'on pense qu'il est à l'écoute. Et il sera là la semaine prochaine. Alors déjà, je peux vous annoncer que la semaine prochaine, nous allons avoir une émission avec Pierre Carle et Julien Brigaud à propos du film Hollande, DSK et etc. Et on vous conseille de l'écouter, hein, ce sera le 27 décembre. Je pense que ça va être intéressant, vous pourrez entendre des extraits de cette émission. Et puis surtout, ça rejoint quelque part, on peut dire pas entièrement, mais puisque ce film se focalise surtout sur les médias, les journalistes et leur rapport avec le monde politique.
Où on peut le voir ?
Comment ?
Où peut-on le voir ?
Ça, je sais pas. Moi, j'ai reçu le DVD. On peut le voir sur Internet. Je me suis pas renseignée de savoir s'il passait quelque part. Mais on demandera à Pierre Carle la semaine prochaine où est-ce qu'on peut le voir.
Tu invites les auditeurs à le regarder.
J'ai pas invité les auditeurs, je leur parle du film et de notre invité de la semaine prochaine, ce qui est pas la même chose. Voilà, donc ça c'est pour la semaine prochaine. Vous pouvez le voir, oui, je sais qu'il y a une partie sur Internet, mais elle est pas entière, sinon il faut le commander sur le site de Pierre Carle, puisqu'en plus ce sont des films qui n'existent que parce que des lecteurs intéressés financent, payent d'avance leur DVD et le reçoivent quand il est prêt. Alors c'est un projet qui date un peu. On a pu voir sur Internet, on pouvait voir des premiers prototypes de ce film. Bon, ils devaient même changer le titre, mais ils l'ont pas changé. Ça, on en parlera aussi la semaine prochaine. Mais enfin, tout ça, donc c'est la semaine prochaine. Pour la semaine dernière, ce que je voulais dire, c'est que on avait quand même pas mal travaillé, préparé l'émission. Hein, Jacques, tu avais une foule de choses à dire. Et notamment, par exemple, pour donner qu'un exemple, dans le Canard enchaîné, où Jean-Luc Porquet, qu'on a pu recevoir ici, évoquait justement Radio Libertaire. Alors, c'est pas tous les jours que dans le Canard enchaîné, on parle de Radio Libertaire. Donc, c'était à propos des chaînes, puisque la semaine dernière, justement, un des sujets qu'on pensait développer, c'était cette ouverture d'antenne aux chaînes gratuites, et qui, on le sait, ne vont faire qu'accentuer le côté merdique, hein, excusez pour la vulgarité, parce que je trouve pas d'autres mots tout de suite, de la qualité de ce qui se passe, ce qu'on peut voir dans le petit écran. Voilà.
Oui, c'est la bande à TF1, Canal+, et toutes les chaînes actuelles qui ont acheté 6 chaînes de la télévision numérique terrestre, TNT, et qui actuellement recherchent des fonds, des moyens, c'est-à-dire qu'ils vont assommer les gens avec des talk shows, avec des publicités, avec tout ce qu'il y a de plus ignoble. Et donc, on aura pour six nouvelles façons de devenir un zombie et de se déconnecter complètement des réalités.
Voilà, ben écoute.
Je croyais que tu voulais aussi évoquer.
Oui, je voulais, mais bon, tout m'échappe un peu. Là, vas-y. Ben, alors,
si, c'est,
toi qui as bien préparé l'émission, vas-y.
Tu m'en as parlé au début. C'est une intervention de Madame de Fontenay, de Finkielkraut.
Ah oui, voilà, c'est ça. Puis, un sujet que j'aurais bien aimé qu'on développe la semaine dernière, qui était assez récent et qui a fait une grosse polémique sur Internet. C'était donc. Vous savez qu'on écoute quelquefois, non d'ailleurs c'est pas vrai, c'est plutôt très rare, mais les émissions, d'ailleurs j'ai oublié le nom, de Finkielkraut le samedi matin, qui s'appelle Concordance des temps, non ? Non, c'est pas Concordance des temps. C'est bon, enfin bref, ça me reviendra. Et dans laquelle étaient invités deux philosophes. Alors, un au nom de Wolf et l'autre au nom de Elisabeth Fontenay. Alors, Elisabeth Fontenay, elle est très connue, enfin, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la cause animale, parce qu'elle a une émission tous les dimanches sur France Inter. Et elle défend donc la cause animale d'une façon assez argumentée et bon, assez intelligente, quoi. Et donc, la confrontation entre... enfin, sa venue dans cette émission, d'ailleurs, était un peu... enfin, poser des questions, parce que on sait comment Finkielkraut est tombé en extase devant sa première corrida, et que depuis, il est devenu un aficionado, un passionné de corrida. Et donc, là, vous aviez un philosophe en face, Wolf, qui défendait la corrida. Et alors, il y a eu des moments assez... comment dire, marquant, parce que Elisabeth Fontenay comparait donc la corrida, la mise à mort et tout ce qui précède de l'animal à une torture. Et elle faisait un petit peu quand même référence à notre époque où justement l'actualité nous montre comment la torture est quelque chose de généralisé et surtout en France on a bien vu une période aussi dramatique et donc elle disait que quand on connaît toutes ces choses on peut difficilement accepter actuellement d'observer une mise à mort comme ça quoi sans dans l'indifférence et Wolf a terminé en lui disant que c'était lamentable de comparer cette corrida à ce qui s'était passé et puis évidemment en exagérant un peu en pensant au camp de concentration et tout mais lui n'avait aucun scrupule à utiliser Alors comment elle s'appelle déjà, ça y est, j'ai oublié, une philosophe aussi très importante, Hannah Arendt. Voilà, lui par contre, pour défendre sa passion pour la corrida et son respect de l'animal, n'hésitez pas du tout à citer Hannah Arendt. Voilà, donc je vous conseille de... Si vous avez internet, tout le monde n'a pas ça, et malheureusement toutes ces machines nous empoisonnent un petit peu la vie, mais c'est une émission qu'on peut retrouver, et vous verrez qu'elle a fait quand même grand bruit dans les forums sur internet. Voilà, en gros c'était les deux, c'est les deux questions que je me souviens de la semaine dernière, qu'on aurait pu développer un peu plus.
Oui, parce qu'on avait l'intention de développer tous les aspects de la maltraitance animale. Mmh. Hein, c'est-à-dire, au fond, ces petites souris ou bien ces animaux plus gros qui sont utilisés dans les laboratoires scientifiques pour faire des expériences, alors que on sait depuis fort longtemps qu'on pourrait utiliser ou faire ces expériences sans aller jusqu'à finalement torturer ou tuer des animaux.
Mmh. Surtout que justement il y a eu une émission là, je sais plus laquelle, dernièrement sur Radio Libertaire, qui justement avait invité des personnes et qui disait que même dans le monde scientifique où il y a des expérimentateurs, certains refusent quand même de procéder ainsi. Donc c'est un débat actuel, quoi. Donc,
oui, puis dans l'actualité aussi, puisqu'on on évoque ce sujet-là, indépendamment de la corrida, il y a des tas de façons de maltraiter ou de torturer ou de tuer des animaux. Il est certain que rien que tout l'élevage des cochons ou des poulets et bientôt aussi des bovins en batterie, c'est une torture. Hein, c'est non seulement une torture pour les animaux qui n'ont plus aucun espace, et même quand ils prétendent avoir le label bio comme les poulets de Loué, et bien quand on va sur place, on s'aperçoit qu'ils ont simplement 2 mètres carrés pour bouger, et à partir de là c'est seulement leur cage. Et puis dans l'actualité
attends, je vais dire dans l'actualité aussi quelque chose par rapport aux animaux. C'est que à Lyon, justement, aujourd'hui, puisqu'on est le 20, ça risque vraiment d'être la fin du monde pour deux bestioles, hein, pas des petites, hein, des grosses, c'est-à-dire 2 éléphants qui ont la tuberculose et depuis déjà au moins 6 mois, et qu'il est question, le ministre de l'Agriculture, d'euthanasier parce que ils sont porteurs de cette maladie. Donc beaucoup d'associations de défense des animaux demandent au moins qu'il y ait discussion, qu'il y ait échange, qu'il y ait concertation pour savoir si cela est vraiment nécessaire. Et on souhaite que non, quoi. Et moi, ce que je pense aussi, c'est que c'est quand même vraiment toute la mentalité de notre époque, c'est que je sais pas, un éléphant quand même, c'est pas une petite bestiole, comme je disais, hein. Mais euthanasier 2 animaux, c'est quand même plus, c'est plus acceptable au niveau de certaines institutions que d'euthanasier des personnes qui le souhaitent, qui se sentent très mal dans leur peau, qui souffrent et qui préféreraient passer de l'autre côté de la barrière. Hein. On se souvient du livre de Claude Guyon, Suicide, je sais plus comment...
Mode d'emploi. Suicide mode d'emploi,
donc qui avait été interdit. Et on continue dans ces schémas-là à ne pas respecter une volonté humaine. Bon, c'est vrai que ça pose quand même énormément de questions, mais tout l'intérêt de vivre en société, c'est quand même les questionnements et les affronter ensemble, sans s'affronter. Et donc voilà, c'est plus facile, donc j'ai l'impression, de tuer deux animaux porteurs de la tuberculose. Et et puis on parle de, alors ça c'est une réflexion de Gérard, nous c'est pas simplement mourir dans la dignité, qu'on voudrait, c'est aussi vivre dans la dignité.
Ben ça, voilà. Ça sera le sujet de tout à l'heure sur la pauvreté qui se développe en France et sur le fait qu'aujourd'hui ou hier se sont réunis le MEDEF et le parti de gauche, hein, pas le parti de gauche, mais le parti socialiste qui prétend être à gauche. En même temps qu'on parlait de l'euthanasie et de ces gens qui souhaitent passer l'arme à gauche, eh bien, je pense qu'en effet que le mot gauche, il a une connotation assez mortifère, assez morbide. Et tout à l'heure, quand tu parlais de ces deux éléphants que des gens veulent assassiner, sous prétexte qu'ils sont porteurs du virus de la tuberculose et qu'ils sont en très bonne forme d'après leur propriétaire, eh bien, il y a des éléphants au Parti Socialiste qui, effectivement, comme le disait Gérard au téléphone...
les éléphants républicains, nous serions peut-être plus d'accord.
Oui, on aurait moins de scrupules quand
On aurait
hein.
peut-être moins de scrupules.
Compte tenu justement de ce qu'ils sont en train de faire et dont on parlera dans les trois ou quatre rubriques de cette émission. La première étant évidemment celle sur la pauvreté et sur l'accroissement de la pauvreté et sur l'agression. On sait bien que la guerre sociale est permanente. Mais disons que il y a des batailles qui sont d'actualité, et notamment une bataille qui se tient en ce moment entre les patrons, les multinationales, entre le MEDEF d'un côté et le pouvoir dit de gauche, hein, c'est-à-dire les socialistes, avec la bande à Hollande, et on voit ce qu'ils ont été capables de faire un peu partout depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, hein, notamment à Florange. Eh bien donc, on évoquera ce sujet-là, puisque la pauvreté ne fait que croître, mais quand on parle de cela, on a l'air de dire, ben, au fond, c'est parce que les gens qui deviennent pauvres, ils savent pas se débrouiller. Non, c'est bien une organisation systématique de la pauvreté. On pourrait appeler, comme on appelle le capitalisme ou le socialisme, une idéologie. Eh bien, il y a une idéologie qui est le paupérisme, et dont on dira quelques mots, puisqu'elle n'est pas nouvelle, elle date déjà de l'époque de Napoléon III et de Tocqueville. Et donc, ce sujet fera l'objet de d'une partie de notre émission, avec trois autres thèmes qui sont liés aussi à l'actualité, la religion. Hein, la religion, puisque vous avez peut-être lu, comme moi, dans Le Monde, que les religieux sont décidés à s'opposer au mariage gay, c'est-à-dire que ils préfèrent en effet les petits garçons, les petites filles, les religieux, hein, qui sont poursuivis, y compris au Vatican, y compris au plus haut sommet de la religion catholique, qui sont poursuivis pour leur pédophilie. Eh bien, organise, archevêque en tête, évêque aussi, Jean 23, non, c'est pas Jean 23, enfin, c'est l'évêque de Paris, sont en train d'organiser une manifestation contre le mariage pour tous au mois de janvier. Et donc, plutôt que de laisser les sans-abri utiliser les bâtiments qu'ils ont et qui sont nombreux et qui pourraient très bien servir d'abri au moins, même si c'est précaire, même si c'est provisoire, eh bien évidemment ils préfèrent se lancer dans des guerres de morale religieuse, c'est-à-dire d'immoralité fondamentale contre les homosexuels.
Et puis en plus, ça leur permet de rassembler des crétins, justement, parce que j'ai lu qu'ils faisaient des messes pour que cette manifestation soit nombreuse. Donc, ils sont en train de faire des messes un peu de partout. Alors, tu vois, c'est vraiment du racolage. éhonté.
Et donc, comme pour le thème sur la pauvreté, il y a cette réunion, donc c'est tout à fait l'actualité, la réunion en ce moment même, ou depuis hier, entre la bande Héros, Moscovici, d'ailleurs on voit leurs photos dans Le Monde datées d'aujourd'hui, Moscovici, Montebourg, enfin toute la bande des Ozo, avec en face, triomphante, Madame Parisot du MEDEF, et puis au fond de la salle, eh bien les misérables petits bureaucrates syndicaux qui, évidemment, on le verra également, n'ont absolument rien à dire et ne sont là que pour la galerie, alors que effectivement le combat devrait être mené par justement ceux qui prétendent représenter les salariés et qui sont d'une indifférence, d'une insouciance, d'une débilité tout aussi grande, peut-être même plus, parce qu'au fond c'est plus grave quand on prétend représenter la classe ouvrière, c'est plus grave que les politiciens de métier, donc qui sont aussi lamentables que la bande à Hollande. Le thème des religions dans l'actualité, c'est pas seulement ce qu'on vient de dire sur l'activité publicitaire pour faire une manifestation réactionnaire de type fasciste, c'est aussi l'histoire aux États-Unis. L'histoire aux États-Unis de ce massacre de 20 petits garçons et de 8 adultes dans un petit village, une petite bourgade de 15 000 ou 20 000 habitants, pas très loin de New York. Et j'ai été absolument sidéré en lisant Le Monde qui commentait ce drame, de lire la réaction d'un religieux, d'un évangéliste, d'un pasteur protestant, qui soutenait effectivement que finalement, c'est pas du tout grave, parce que c'est pas du tout les armes qu'il faut supprimer, hein, puisque les abrutis des États-Unis, ils ont dans leur constitution le droit de porter des armes en permanence, et des armes de tout calibre, c'est-à-dire des armes de guerre, et que évidemment il y a un lobby qui s'appelle la NRA qui veut pas entendre parler de supprimer cette soi-disant avantage que possède chaque citoyen américain de détenir de quoi tuer son voisin ou de quoi faire des massacres dans des lieux publics. Et donc, pour en revenir à la religion, à ce pasteur évangéliste, il disait « Mais finalement, c'est pas grave qu'il y ait beaucoup d'armes, parce que c'est pas les armes qui tuent, c'est ceux qui les portent. » Bon, alors, première réaction, déjà complètement stupide, très religieuse. Et puis, deuxième réaction, encore pire, c'est « Et puis finalement, ce massacre dans l'école de Newton, ce massacre d'une vingtaine d'enfants, de jeunes enfants et de 8 adultes, il est presque normal, étant donné que on ne donne pas de cours de religion, vous entendez bien, on ne donne pas de cours de religion dans cette école. Et comment voulez-vous que Dieu la protège et que Dieu protège les enfants qui tous les jours vont apprendre à lire dans cette école, puisqu'au fond on leur apprend pas tout ce que on doit savoir sur le respect de la divinité, sur tous les dogmes, sur la charia protestante, sur le Tea Party, etc. Donc, comme on n'apprend pas ça à ces jeunes enfants et aux autres dans cette école, il était normal que finalement Dieu ne les protège pas et qu'ils soient massacrés par ce tueur fou. Donc, voilà le discours religieux. Alors, quand Blanqui disait « Il y a dans tout spiritualiste convaincu », et par spiritualiste convaincu, il parlait en effet des salafistes aujourd'hui ou des protestants, des évangélistes protestants américains, c'est-à-dire des gens qui considèrent que leur vérité, non seulement est la seule possible, mais qu'en plus elle doit nécessairement écraser les autres et éventuellement les éliminer, ceux qui pensent pas pareil. ceux qui ne croient pas au même Dieu, eh bien là, on a en effet cette démonstration que tout spiritualiste convaincu est un assassin en puissance, et c'est pas seulement le rabbin Leibovitch qui évoquait cette bestialité que provoque le nationalisme, mais c'est aussi cette bestialité que provoque la fermeture dans un dogme, dans une religion, dans une vérité absolue qui est capable de soulever des populations entières et de déclencher des guerres civiles. Alors, quand on entend un évangéliste, après ce massacre aux États-Unis, s'exprimer de la sorte en disant que finalement, c'est normal, hein, Dieu les a pas protégés, ces pauvres mômes, hein, puisqu'ils ont pas le droit au cours d'éducation religieuse. C'est un petit peu... Alors, on n'en est pas là, mais en ce moment, on parle aussi beaucoup de la laïcité, mais il faut quand même rappeler, hein, que Jules Ferry disait que la morale laïque, la morale de l'institut, est la même que la morale du prêtre, et que M. Sarkozy disait même que la morale du prêtre est plus importante et doit être mieux respectée que la morale de l'instituteur. Hein, donc, n'oublions pas cela, parce que c'est bien ce que les pouvoirs, quels qu'ils soient, souhaitent. C'est en effet soit la résignation du pauvre croyant, soit son excitation pour déclencher ce qui pourra ensuite justifier l'intervention de l'État au nom du maintien de l'ordre. Donc, je crois que là, il y a un phénomène particulièrement tragique. Alors, dans les deux autres sujets, il y aura les banques, hein, parce qu'effectivement, en ce moment, ou bien tout à l'heure à France Inter, vous pouviez entendre l'équipe qui a parlé de les sociologues qui ont fait un
Pinson Charlot
sur les riches, Pinson Charlot, qui était à France Inter, malheureusement dans une émission un peu sinistre,
celle de Patrick Cohen et de
Pascal Clark, qui est une émission de rigolo, mais enfin ils évoquaient justement leur bouquin sur le fait que l'organisation, en quelque sorte, de la société française, européenne et états-unienne également, elle est fondée sur le vol. Hein, elle est fondée, le capitalisme, c'est par définition le vol et la corruption, dans la mesure où ils évoquaient, là aussi dans l'actualité, le fait que l'Europe et la France aussi prétendent séparer dans l'activité des banques, les banques de dépôt des banques d'affaires. Or, les banques d'affaires, disait-il, et à juste titre, c'est vraiment la corruption absolue, c'est le scandale absolu, et qui est légitime. Hein, c'est-à-dire, au fond, les paradis fiscaux, la BNP en a une centaine, les autres banques en ont une centaine, et donc toute cette organisation du vol capitaliste est effectivement légitimée, et même si on l'a, ce qui en plus est complètement artificiel, que même si on sépare cette activité casino, cette activité spéculative, cette activité du jeu qui est fait avec l'argent public, puisque c'est ce qui se passe quand il y a des difficultés, quand les banques perdent au jeu, eh bien elles font appel au peuple, hein, pour les renflouer. Eh bien, je crois que on a là encore en parallèle avec tout ce qui se passe sur la montée du paupérisme, on a également l'illustration de ce que c'est qu'un système fondé uniquement sur le vol. Et puis, dernier sujet qui est aussi un peu triste dans l'actualité, c'est sur l'écologie. Parce que dans l'actualité, vous avez malheureusement sûrement entendu ou lu que le Japon venait de mettre à sa tête un pouvoir pro-nucléaire. Et que alors que il semblait qu'une grande majorité du peuple japonais, après Fukushima, avait pris conscience de la dangerosité du nucléaire, et de ses effets absolument catastrophiques, même quand le réacteur n'explose pas, puisqu'on ne sait pas du tout quoi faire des déchets et des centrales qui sont en bout de course. Et bien malheureusement, le gouvernement japonais, là encore, tout à l'heure on parlait des dogmes religieux qui finalement transforment les individus en assassins, ou qui justifient l'assassinat, hein, comme ce pasteur américain. Et bien là, le gouvernement japonais, les pouvoirs publics ont réussi à exciter la foule du peuple japonais en prétendant que les Chinois voulaient s'emparer de deux ou trois petits îlots qui leur appartiennent, qui appartiennent au Japon, selon eux. Et donc, voilà, la propagande nationaliste a réussi à faire en sorte que avec en plus évidemment le mécanisme dit démocratique de représentation populaire, dans lequel on sait que les majorités sont malheureusement les moins bien éclairées et que par conséquent elles préfèrent répondre à un appel au crime plutôt qu'un appel à la protection des populations contre le nucléaire. Donc on évoquera donc tout ce qui se passe, parce qu'il n'y a pas qu'au Japon, il y a aussi en Europe, notamment les Anglais qui ont décidé de relancer le nucléaire grâce à une société française qui s'est installée en Angleterre, c'est EDF Energy, et qui veut construire deux EPR. Et également en Angleterre, le gouvernement vient de décider l'autorisation de l'utilisation et donc de la recherche du gaz de schiste. Donc on peut dire que nous sommes bien entourés. Bon, alors voilà les quatre thèmes, pauvreté, religion, banque et écologie, dont on dira d'autres, dont on essaiera de développer un petit peu plus tout à l'heure. Et après, peut-être, si Josie le veut bien, une petite séquence de chansons ou
oui,
de
bah justement,
musique.
Oui, justement, on va illustrer un petit peu par rapport à cette mobilisation du 13 janvier, hein, où, donc, comme tu l'as rappelé, les églises n'ont pas de place pour recueillir les sans-abri. Mais pour organiser ces rassemblements et cette manifestation, elle va libérer un tas de places. Donc on va pouvoir faire des repérages. Hein. Les gens vont venir de loin, hein, parce que vous savez, il y a un lieu. Alors je le dis parce qu'on a des amis et des points d'attache un petit peu dans le sud. Et il y a un lieu qui est fortement connu pour être réac et catholique à mort. C'est-à-dire, ce sont les ultra-réac qui habitent dans le Barou, un lieu qui est absolument magnifique, vers les dentelles de Montmirail. Et donc, ces gens-là vont venir pour participer à cette manifestation du 13 janvier. Et je pense que la mobilisation en face risque d'être quand même importante, ou du moins, on le souhaite. Et alors, juste pour terminer, avant de vous passer, parce que moi, je pense qu'ils sont contre le mariage gay, mais en fait, ils ont une tendance assez homosexuelle, on va dire, parce que je vais vous dire la déclaration de... Alors, ça s'invente pas son nom, il s'appelle le cardinal Barbarin. Et il a organisé une messe donc dans la basilique de Fourvière. Et voilà comment il annonce la prière qu'il propose. C'est une prière mariale pour le respect par le législateur du mariage tel qu'il a été donné par Dieu aux hommes. Voilà. Donc voilà, il n'y a plus rien à dire, c'est comme ça. Alors on va écouter dans ce monde où tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil, justement, le titre d'un film que peut-être des gens jeunes ne connaissent pas parce que il date des années, alors je me rappelle plus trop la date, si c'est les années 75. Enfin, c'était avec Jean-Yann et c'était toute une satire sur la religion assez succulente. Et on peut voir le film en entier sur Internet. Donc si vous êtes, si vous avez, je sais pas, une vingtaine d'années, que vous avez jamais entendu parler de ça, regardez. C'est une critique à la fois de la consommation, à la fois de la publicité, à la fois de la radio et à la fois de la hiérarchie. Enfin, de avec Bernard Blier. D'ailleurs, qui est remarquable, Jean-Yann, et une foule d'acteurs qui étaient assez drôles à l'époque. Voilà, alors je vous laisse... ah oui, voilà, c'est Ginette Garcin. Et vous allez nous en dire des nouvelles. Et alors, on rappelle, vous êtes sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, un lieu, le 145 rue Amelot, lorsque vous voulez vous adresser au secrétariat de la radio, parce que par exemple tout à l'heure quelqu'un demandait il voulait savoir un morceau qui était passé. Alors là, je dois dire que je sais pas trop comment faire, sinon en téléchargeant les parties musicales. Enfin, je sais pas trop, sinon vous vous adressez au secrétariat au 145 rue Amelot. Alors le téléphone du studio, c'est 01 43 71 89 40, et on vous rappelle, c'est Chronique Hebdo. Commentaire de l'actualité, Jacques, Josie et d'habitude Gérard, mais qu'on reverra la semaine prochaine. À tout à l'heure.
Je vivais comme une ombre, j'avais les idées sombres, faisant partie d'une ombre des désespérados. Je ne savais quoi faire pour chasser ma misère. Quand on est solitaire, aïe, on a froid dans les os. Quand dans une chapelle, sous la blanche et très belle statue de la douce Immaculée Conception, je sentis la foi naître, et au fond de mon être, du Seigneur Jésus-Christ, la révélation dans les bras de Jésus. Maintenant tous les jours je danse, et désormais mon existence
de nous. Quand le ciel en aura marre des fous, il faudra tout par-dessus tout en l'air ce qui était dessous, par terre ce qui était debout. Ça sera pas beau à voir du tout. Jour de colère, que ce jour-là, il faudra mieux ne pas être là. Le jour où tout dégringolera. La tour Eiffel, l'Himalaya, les pyramides et la Scala de Milan, ça fera du vent. Jour de colère, que ce jour-là, sur toute la terre, ça valsera.
La mer viendra danser,
viendra danser
au grand casino de Vichy. Elle entrera faire un banco avec les morts,
et les croupiers ayant perdu leur beau louis d'or
avanceront les coquillages. La Seine quittera son lit,
quittera son lit
et traversera l'Atlantique.
Expliquer au président des USA
que dans le temps il y avait à Rouen une cathédrale.
comme un gratte-ciel du Moyen-Âge. Jour de colère que ce jour-ci, il vaudra mieux se mettre à l'abri le jour où tout tombera en pluie.
Madagascar, le Stromboli, le Vatican et les galeries Lafayette,
gare à nos têtes. Jour de colère que ce jour-là sur toute la terre ça valsera.
Le vent portera
dans la direction du pôle sud
des cheminées, des petits drapeaux, des trolleybus, quelques quais de généraux, quelques plantes vertes,
des mon amour
et des passoires. La boue,
recouvrira comme un édredon de tendresse
les quincailleries, les ambassades et les bordels,
le Pentagone, le saut de Vincennes et le rideau de fer et l'antenne de radio. Ce jour-là, il vaudra mieux ne pas être là. Plus rien ne restera.
Plus rien qu'un air d'accordéon montant dans l'air comme un adieu à la vie.
Et sur la
dépêche-toi de rire, il en est encore temps. Bientôt la poêle à frire et adieu le beau temps. D'autres viendront quand même respirer le beau temps. C'est pas toujours les mêmes, mais il y a toujours des gens. Sous le premier empire, il y avait des habitants. Sous le second empire, il y en avait tout autant. Même si c'est plus les mêmes, tu t'en iras comme eux. Tu t'en iras quand même, tu t'en iras chez eux. Dépêche-toi de rire, il en est encore temps. Bientôt la poêle à frire et adieu le beau temps. D'autres viendront quand même respirer le beau temps. C'est pas toujours les mêmes, mais il y a toujours des gens. C'est pas moi, c'est mes frères qui vivront après moi. Même chose que mon grand-père qui vivait avant moi. Même si c'est plus les mêmes, on est content pour eux. Nous d'avance on les aime, sans en être envieux. Dépêche-toi de rire, il en est encore temps. Bientôt la poêle à frire et adieu le beau temps. D'autres viendront quand même respirer le beau temps. C'est pas toujours les mêmes, mais il y a toujours des gens.
Voilà, Radio Libertaire, Chronique Hebdo. Pour continuer notre petit commentaire de l'actualité, alors ce que vous avez entendu et qui a été vite
qui est, dans les bras de Jésus
est vite passé à l'autre morceau, mais ça, bon, je ne sais pas régler ce genre de truc. On n'a pas entendu la fin, ça a embrayé directement sur le deuxième morceau. C'était Dans les bras de Jésus de Ginette Garcin, qui est décédée à une paire d'années là. Et donc vous avez aussi entendu Jour de colère par les frères Jacques, hein, puisqu'on parle de fin du monde, je trouvais que c'était pas mal. Et Dépêche-toi de rire de Jacques Douai. aussi. Et ce que je voulais dire, qu'on a un petit peu oublié quand on parlait des animaux, c'est que la France, justement, risque encore une fois de se faire aligner par la Cour européenne, parce qu'elle elle protège très mal ses ours. Et voilà, encore une fois, le vivre ensemble, animaux, nature et tout, c'est pas évident. Et voilà, on peut chasser l'ours, on peut tout détruire, mais voilà, est-ce qu'on a quelque chose à gagner à tout ce carnage ? Et d'autant plus qu'on le constate tous les jours, quoi. Les choses disparaissent, l'écosystème en prend un bon coup. Voilà. Donc c'était juste pour compléter le petit sujet du début de l'émission.
Alors on revient au sujet numéro un, c'est-à-dire la pauvreté. Et notamment la réunion qui se tient ou qui s'est tenue, mais qui doit continuer, entre les pouvoirs publics, entre le gouvernement Hérault et le MEDEF et les patrons. Et dans un texte que vous pouvez trouver dans Le Monde daté d'aujourd'hui, jeudi 20 décembre 2012, un gros titre indiquant que finalement, c'est pas tellement le sort des individus qui intéresse le pouvoir, ni même les syndicats. c'est le marché du travail. Et c'est pour ça que on dit pas la pauvreté, comment faire en sorte de régler la situation des gens qui n'ont plus de quoi vivre. Simplement parce que, avec le jeu économique, les délocalisations, la spéculation financière, la confiscation dans des paradis fiscaux des richesses produites par les salariés au cours de leur vie, de tout leur travail, eh bien, on ne dit pas, il faut, en réalité, prélever immédiatement, faire, comme on dit, faire cracher tous ceux qui ont volé pendant des décennies. Non, on dit, voilà, il faut régler le marché du travail, comme si le travailleur, comme si le salarié, comme si celui qui est domestiqué par un patron, par une multinationale, comme si on pouvait dire que c'est finalement un simple objet de consommation, un simple objet de concurrence, un simple objet de production comme n'importe quel produit ou service, hein, et qu'il figure sur le marché. Voilà, alors sur le marché, les travailleurs sont sur le marché, on en fait ce qu'on veut, hein, on les jette quand on en a plus besoin, et puis quand ils sont encore là, pour qu'on puisse continuer à faire des affaires sous prétexte qu'effectivement d'autres sociétés sont plus compétitives et font travailler dans des conditions encore pires leurs travailleurs, leurs salariés. Eh bien, on exige, les patrons exigent de nouveaux sacrifices. Et c'est bien cela qui est en train de se préparer aujourd'hui, sous la houlette de M. Hérault, évidemment, le triste Hérault de Nantes, le triste zéro. Et puis avec comme ministre du Travail Monsieur Michel Sapin, et c'est vrai que quand on dit ça sent le sapin, eh bien c'est ça sent le sapin. Voilà ce que Monsieur Sapin écrit dans le journal Le Monde à propos du marché du travail. Il écrit d'abord « Le MEDEF est sous pression ». Hein, alors que s'il y a des gens sous pression, c'est ceux qui effectivement subissent le MEDEF. Mais tout ça, c'est pour dire effectivement qu'il va y avoir un gouvernement, des syndicats qui vont exiger du MEDEF quoi que ce soit, alors que c'est l'inverse. Et c'est l'inverse d'autant plus nettement que Monsieur Sapin écrit « Les textes patronaux n'étaient jusqu'ici clairement pas à la hauteur des enjeux. » Hein, voilà ce que M. Sapin déclare au journal Le Monde. Autrement dit, le MEDEF n'avait pas en effet trouvé les bonnes solutions pour régler le problème de la pauvreté, du chômage, de la désespérance d'une grande partie de la population, comme si c'était à lui, le MEDEF, à le faire, alors qu'en fait, ses enjeux à lui, c'est non seulement de subsister, de se développer, mais de faire comme les patrons du CAC 40, dont on voit qu'ils ont continué à s'augmenter eux-mêmes, à bénéficier de salaires extraordinaires, de rémunérations complémentaires fantastiques, de stock options, c'est y compris quand leur société périclitait, ça n'a pas de rapport. Alors dans les textes que je voudrais éventuellement commenter, les sujets de ce débat, soi-disant débat, cette grande réunion entre les patrons et le gouvernement, avec accessoirement les syndicats, eh bien voilà quelques-uns des thèmes qui vont être abordés. Et Le Monde le signale, ça va avoir un impact important sur le droit du travail. Alors effectivement, le droit du travail, déjà depuis de longues années, depuis près de 40 ou 50 ans, il a été peu à peu effacé. Vous avez même vu que récemment, les conventions collectives ne font plus la loi dans les entreprises, ça sort simplement des accords d'entreprise, ce qui évidemment est une façon, là encore, les syndicats semblent n'avoir pas résisté à cette décision patronale, ce qui est une façon de dire, finalement, on va pouvoir imposer plus facilement nos conditions lorsque nous n'avons qu'une entreprise devant nous, et alors qu'avant nous avions tout un groupement d'entreprises. Et c'était ça, les conventions collectives. Alors donc, ce droit du travail va être, en effet, à nouveau sur la sellette, parce que quels sont les sujets qui sont maintenant à la hauteur, comme dirait M. Sapin, qui sont proposés par le MEDEF? Eh bien, c'est un mot un peu barbare, qu'on traite de la déjudiciarisation. C'est-à-dire, il ne faut plus que le juge se mêle d'accepter en quelque sorte la revendication du travailleur, que le Conseil des prud'hommes ne soit pas saisi par les travailleurs et en tout cas ne rende pas des décisions défavorables au patronat. Voilà ce que le patronat demande. Il veut limiter le contrôle du juge sur les licenciements. Limiter le contrôle du juge, c'est-à-dire au fond, il pourra licencier comme il veut. Et pour éviter ça, pour éviter que le juge donne raison à celui qu'on licencie arbitrairement, le patronat veut que les plans sociaux puissent être homologués par l'administration pour en circonscrire les possibilités de recours en justice. Il demande ainsi que les motifs de contestation des licenciements individuels soient limités, tout comme les dommages et intérêts et le délai de saisie des prud'hommes. Alors voilà de quoi on va parler. C'est-à-dire, on va, pour régler la pauvreté, vous savez qu'il y a aussi une commission spéciale sur ce sujet-là, une commission gouvernementale. Eh bien, je pense que d'ailleurs les mêmes ministres sont aussi à la réunion avec le MEDEF. Eh bien, pour régler en effet ce problème majeur, on va en effet permettre à ce que les licenciements soient beaucoup plus faciles et que les patrons ne soient pas inquiétés lorsqu'ils font n'importe quel licenciement. Voilà les sujets qui sont abordés en ce moment dans cette rubrique le marché du travail. Alors, il n'y a pas seulement ça. Il y a le fait de dire, il faut que le patron puisse mettre les ouvriers là où il veut. Il s'agit de forcer plus facilement les salariés à changer de poste ou de lieu de travail. Hein, vous entendez bien, c'est-à-dire qu'au fond, même s'il y a eu un contrat qui définit à la fois le lieu où le salarié va travailler et les conditions dans lesquelles il va travailler, hein, c'est-à-dire le poste très précisément qu'il va occuper, eh bien, le patron maintenant se dit, bah oui, je vous ai embauché pour être comptable, mais finalement, je préfère, puisqu'on a un petit blanc, un petit manque dans tel service, que ce soit un service commercial ou bien que ce soit un service administratif, eh bien, vous allez plutôt aller travailler dans ce secteur-là. Et éventuellement, comme j'ai une petite succursale à 50 km, eh bien, ça serait pas mal que vous y alliez. Hein, voilà donc, là encore, ce qui est en discussion aujourd'hui sur ce fameux marché du travail, hein, la mobilité interne. C'est ça qu'on appelle ça. Hein, donc, le patron peut, en effet, faire changer de poste, faire changer de lieu de travail sans aucune difficulté. Hein, et un salarié qui refuserait de changer d'affectation dans les limites, évidemment, de 50 km, ce que je vous disais tout à l'heure, ou bien 45 minutes pour se déplacer, eh bien, un salarié qui refuserait de changer de poste ou de lieu de travail pourrait être licencié pour motif personnel, et à ce moment-là, l'employeur n'a pas à faire un plan social. Il n'a pas à justifier du licenciement, et évidemment, ce licenciement serait systématiquement interdit d'être porté devant les tribunaux, devant les prud'hommes. Voilà le genre de proposition à la hauteur des enjeux, comme dit Monsieur Michel Sapin, ministre du Travail, qui sont demandés par le MEDEF pour régler ses propres problèmes de richesse et non pas de pauvreté. Alors donc, interdiction aux juges de se mêler des licenciements, les conseils de prud'homme au fond pourra les supprimer. Le salarié, il peut être changé de poste et de lieu de travail à volonté, sans qu'il y ait à discuter. D'autre part, on appelle ça le contrat de projet. Le patronat voudrait bien étendre à beaucoup plus de secteurs qu'actuellement les CDI dont la durée est circonscrite à la réalisation d'un projet. Alors vous voyez ce que c'est qu'un projet, c'est-à-dire que on va vous faire soi-disant un contrat à durée indéterminée, un CDI, mais vous allez être chargé par exemple du projet d'étudier la construction de tel, si vous êtes dans une entreprise du bâtiment, de telle société ou de telle infrastructure. Vous allez donc avoir comme salarié une mission précise de faire tout le travail pour qu'on sache à la fois les conditions, le coût, etc. de cette infrastructure, bâtiment ou autre chose. Et puis quand vous aurez fini, ben, on vous dira ben, maintenant, vous aviez bien un contrat à durée indéterminée, mais comme le projet a été mené à bien, eh bien vous n'avez plus qu'à afficher le camp. Voilà là encore une solution pour régler le problème de la pauvreté. Alors, évidemment, je ne vais pas lire toutes les demandes du MEDEF et puis même celles des syndicalistes qui sont effectivement complètement en dehors de la plaque, puisque pour eux, les syndicats demandent simplement que quand un chômeur a repris un boulot et n'a pas épuisé ses droits au chômage, eh bien que s'il retombe chômeur, on puisse ajouter à ses nouveaux droits ceux qu'il n'a pas utilisés complètement avant. Voilà le genre de demande que proposent les syndicats. Hein, de la même façon, les syndicats n'ont aucune aucune volonté, hein, parce que le problème n'est pas du tout le problème de savoir si on va maintenir des droits d'une importance plus ou moins grande, c'est de faire en sorte que le salarié ne soit pas privé de ressources du jour au lendemain, hein. Et donc, quand on voit parallèlement aux demandes patronales les demandes syndicales, on est évidemment absolument accablé. Alors, ceci dit, il est certain que ce comportement du gouvernement et du MEDEF, et qui malheureusement est soutenu par tous les économistes, hein. Par exemple, on pouvait lire dans un article du début décembre, du 4 décembre, dans Le Monde, un économiste de l'Institut de Cologne en Allemagne qui disait « Ah ben oui, les firmes, les entreprises ne peuvent pas effectivement être considérées comme responsables de la situation de pauvreté des gens qu'elles emploient. Hein. » Il y a tout un article sur le thème « les limites de la responsabilité sociale des firmes ». Alors je crois que là encore, si on considère qu'elles n'ont aucune responsabilité, alors qu'elles ont pendant des dizaines et des dizaines d'années fait des profits pour les plus importantes, les multinationales, et ont confisqué la richesse que produisaient leurs salariés, on peut penser effectivement que c'est bien l'organisation systématique du paupérisme qui est en ce moment en cours, hein. C'est-à-dire qu'on veut faire porter sur les épaules des salariés toutes les insuffisances, tout le vol qui a été fait par les patrons du CAC 40 pendant des années. Hein. Et alors évidemment, on peut dire que si on compare avec les autres les autres pays européens, eh bien, il paraît que les patrons anglais, italiens et allemands sont payés également dans des conditions considérables, très favorables, encore plus favorables que les patrons français. Mais on peut dire que là, on a en effet un phénomène qui montre à quel point la paix sociale facile à retrouver, hein, puisque effectivement c'est bien uniquement sous l'angle du marché, c'est-à-dire sous l'angle des intérêts des producteurs que le sujet est traité. Et dans le Monde daté du 14 décembre, donc il n'y a pas longtemps, on pouvait lire le pari inédit du patronat français. Et ce pari inédit, c'est de dire, voilà le sous-titre, comment le gouvernement et le MEDEF se sont rapprochés. Hein. Alors donc, quand on dit qu'effectivement le pouvoir qui d'État non seulement est étranger au droit, indifférent à toute idée morale, simple instrument de force, mais en plus sa seule justification a été d'arbitrer en faveur du plus faible. Et dans les conditions actuelles, le plus faible est de plus en plus faible, le plus pauvre est de plus en plus pauvre, et bien c'est le salarié ou le chômeur, ou celui qui ne trouve pas de boulot. Eh bien cet arbitrage étatique, il n'existe pas, et la complicité, quand on dit que ce sont les banques, on verra ça peut-être tout à l'heure, quand on dit que ce sont les banques qui dirigent en quelque sorte notre société, et qui dirige évidemment une société de la corruption et du vol, puisque, comme le disait Pinson Charlot, il est absolument incroyable qu'on légitime la spéculation, qu'on légitime la technique du casino, des traders, des banques qui font évidemment faire des affaires, mais aux seules banques et au détriment. C'est ça qui est le plus scandaleux, c'est que ça n'est pas du tout les banques qui perdent de l'argent aux jeu qui vont être amenés à fermer leurs portes, mais non, on va dire, c'est finalement une dette publique, c'est finalement une dette de l'État, et donc on va faire payer les contribuables. Et je crois que cet aspect absolument incroyable de l'organisation économique et sociale d'aujourd'hui est quelque chose qui est tout à fait inacceptable. Et alors, pour faire taire, évidemment, pour faire taire les salariés, pour qu'ils acceptent cette destruction des protections qui existaient, que ce soit la sécurité sociale ou que ce soit le code du travail, puisqu'au fond, c'est cette entreprise de démolition au profit du marché, et on appelle ça en plus le marché du travail, eh bien, pour qu'ils acceptent, eh bien, on leur fait des câlins, on leur dit, oh ben oui, mais on va être gentil avec vous, on va prendre soin de vous, on va se faire du souci pour vous. Vous savez, c'est le discours de Madame Aubry sur le CARE, hein. Il y a eu un article d'ailleurs dans Télérama dont a parlé, je sais pas si on en a déjà parlé, mais qui était particulièrement intéressant, dans lequel on voyait que finalement dans les entreprises, même quand on met les gens dehors, eh bien il faut le faire avec beaucoup de gentillesse, il faut considérer que en effet la compassion est quelque chose de fondamental. Donc c'est tout à fait les bureaux de bienfaisance, et il y a même eu un article sur ce qui va encore au-delà de la bienfaisance, parce que il s'agit même plus de donner des contreparties, c'est-à-dire de dire, ah ben, on va faire un revenu minimum qui permette aux gens de vivre, hein, puisque vous avez vu que le revenu de solidarité active, il est pratiquement pas du tout augmenté, hein, il reste encore inférieur à la moitié du SMIC, et quant au SMIC, lui, il est augmenté de 1 euro par mois, ou quelque chose comme ça, ce qui témoigne là encore du mépris total du gouvernement, du pouvoir, à coquiner évidemment aux banquiers du MEDEF à l'égard des salariés. Alors c'est pas seulement l'assistance, parce qu'en plus on va dire, ah bah oui, mais c'est des assistés, ils touchent déjà des sommes de la part des organismes de chômage, de Pôle emploi, mais en plus il faudrait qu'ils se plaignent. Mais non, puisque on va prendre souci d'eux, et on va en effet non seulement faire de la bienfaisance, mais de la bienveillance. Dans un article qu'on peut trouver dans Le Monde, également sur ce thème-là, dans Le Monde du 4 décembre, eh bien, un brillant économiste, comme tous les économistes, il est conseiller en stratégie sociale et professeur associé au CELSA. Et alors, ce personnage, un certain Jean-Marc Le Gall, fait un article dans Le Monde, donc du 4 décembre, qui s'appelle « De la bienveillance dans l'entreprise ». Et voilà ce qu'on peut lire dans son texte. L'expression de la bienveillance en entreprise est quelque chose de fondamental. Il faut donner confiance, hein. Alors, vous savez ce que c'est que la confiance, hein, comme disait un écrivain. La méfiance, c'est tout de même une forme d'intelligence. La confiance, c'est la bêtise. Il faut donner confiance aux salariés, et même quand on va le chasser, même quand on va en effet utiliser la déjudiciarisation ou les contrats de projet dont je parlais tout à l'heure, quand on va pouvoir le mettre à la porte, lui faire faire n'importe quoi dans n'importe quelle condition, et avec un salaire qui sera évidemment réduit, hein, parce que là aussi c'est une demande du MEDEF en disant, bah oui, il faudra aussi que les salariés acceptent des réductions de salaire pour sauver l'entreprise. Hein, voilà le discours. Et alors, l'un des spécialistes, un certain Guillaume Mercier de l'Université de Paris-Ouest, il prolonge la réflexion sur l'efficacité de la bienveillance en disant, je fais l'hypothèse que l'anticipation de la bienveillance produit de la confiance, hein, donc produit de la bêtise, laquelle devient un mécanisme efficace de coordination. Voilà, alors vous allez en effet coordonner, vous êtes foutu à la porte, vous êtes chômeur, vous avez un salaire de misère, vous en avez plus du tout, mais vous allez quand même être un facteur efficace de coordination. Alors voilà ce qu'on peut dire sur ce sujet. Il y aurait bien d'autres sujet également, bien d'autres thèmes, bien d'autres exemples dans l'actualité pour montrer à quel point le mépris de la population française, mais européenne, c'est la même chose. Je vous rappelle que l'Europe a eu le prix Nobel de la paix alors que la guerre économique et sociale se poursuit depuis sa création, puisque au fond c'était la liberté du plus fort de faire ce qu'il veut, hein, c'est-à-dire sous prétexte de concurrence, et il y a même une commission qui punit les entreprises qui se lancent dans un monopole, des punitions absolument ridicules, puisque les ententes sont beaucoup plus nombreuses en effet que les concurrences, on peut le voir à peu près systématiquement. Mais ce que je voulais dire en conclusion, c'est que finalement on peut dire qu'on est c'est un retour au début du capitalisme, et il s'est trouvé donc que j'ai eu l'occasion d'évoquer une brochure de Louis Napoléon Bonaparte, qui avait été condamné à la prison et qui s'était enfui de la prison de Ham, oui, parce qu'en 1840 il avait voulu faire un coup d'État qui avait échoué. Et après, évidemment, il s'est bien rattrapé puisqu'il est devenu Napoléon III. Mais il avait fait, lui, à l'époque où il faisait de la prison, un texte d'une vingtaine de pages qu'il avait appelé de l'extinction du paupérisme. Et alors il proposait des formules pour le cas où il n'y aurait plus assez de travail dans les villes, dans les entreprises du capitalisme industriel naissant. Eh bien, il proposait de faire des colonies, non pas pénitentiaires, mais des colonies avec un gouverneur dans lesquelles pourraient être rassemblés tous les chômeurs, tous les travailleurs dont les entreprises industrielles n'auraient plus besoin ou seraient pour des raisons économiques, un peu comme les raisons de crise d'aujourd'hui, hein, seraient obligés de se débarrasser. Alors, à l'époque de Louis-Napoléon Bonaparte, il y avait encore énormément de terres en friche en France, et donc lui, il avait imaginé de faire des colonies agricoles dans lesquelles on enverrait travailler ces colonisateurs sous l'autorité d'un gouverneur avec une discipline de type militaire. Et puis quand les patrons reverdirent leurs espoirs de faire du profit, eh bien ils viendraient reprendre les espèces de prisonniers de ces colonies agricoles, et puis pour les réembaucher dans des conditions évidemment les plus lamentables possible. C'était ça le projet de Louis-Napoléon Bonaparte. Et alors il écrivait en conclusion, de cette façon la pauvreté ne sera plus séditieuse. Parce que vous voyez, c'est bien en effet ce que M. Sapin, ministre du Travail aujourd'hui, laisse entendre, à savoir au fond il faut surtout aider les entreprises à s'en sortir, et c'est ça qui est l'essentiel, parce que finalement, si elles s'en sortent bien, grâce aux conditions effroyables dans lesquelles travailleront les gens, eh bien peut-être qu'on évitera que cette pauvreté soit séditieuse. Et donc Louis-Napoléon écrivait ça: la pauvreté ne sera plus séditieuse lorsque l'opulence ne sera plus oppressive, les oppositions disparaîtront et les prétentions surannées qu'on attribue à tort ou à raison à quelques hommes, hein, ça doit être des contestataires, s'évanouiront comme les folles brises, alors là il fait de la poésie, qui rident la surface des eaux sous l'équateur et s'évanouissent en présence du vent réel qui vient enfler les voiles et faire marcher le navire. Voilà, c'est une grande et sainte mission, dit, ajoutait-il, bien digne de l'exécutif, l'ambition des hommes, que celle qui consiste à apaiser les haines, à guérir les blessures, à calmer les souffrances de l'humanité en réunissant les citoyens d'un même pays dans un intérêt commun et en accélérant un avenir que la civilisation doit mener tôt ou tard. Dans l'avant-dernier siècle, La Fontaine, alors va, écoutez bien ce qu'il écrivait, il citait La Fontaine. Dans l'avant-dernier siècle, La Fontaine émettait cette sentence trop souvent vraie. Et je crois qu'elle est toujours vraie. Et cependant, si triste, voilà, si triste, si destructive de toute société, de tout ordre, de toute hiérarchie. Hein, voilà le. Elle était vraie, mais quand même c'était triste parce que ça, elle était destructive de toute hiérarchie. Et cette formule de La Fontaine, c'était, je vous l'ai dit en bon français, notre ennemi, c'est notre maître. Alors voilà, on va aussi sur dans Chronique Hebdo avoir cette formule-là. Je vous le dis en bon français, notre ennemi, c'est notre maître. Et donc Louis-Napoléon Bonaparte disait, bah aujourd'hui on n'en est plus là, grâce à ma brochure et à mon projet d'extinction du paupérisme, le but de tout gouvernement habile doit être de tendre par des efforts à ce qu'on puisse dire bientôt, le triomphe du christianisme a détruit l'esclavage, le triomphe de la Révolution française a détruit le servage, le triomphe des idées démocratiques, alors lui il appelait ça les idées démocratiques, a détruit le paupérisme. Alors je crois que ça n'a pas changé d'un pouce, parce que j'évoquais le ministre du Travail, Sapin, au cours de cette présentation, mais il n'est pas tout seul. Dans le parti de gauche, figurez-vous, hein, dans le parti de gauche, eh bien il y a un personnage, un haut fonctionnaire qui s'appelle Jacques Rigaudiat. Eh bien ce Jacques Rigaudiat, il a écrit en 2007, aux éditions Autrement, un bouquin qui s'appelle Le Nouvel Ordre Prolétaire. Eh bien, M. Jacques Rigaudiat considère que le paupérisme, écoutez bien, il utilise le même mot, le paupérisme forme désormais l'une des toiles de fond du paysage contemporain. Hein, le paupérisme forme désormais l'une des toiles de fond du paysage contemporain. La misère n'est plus un malheureux accident, un résidu, un scandale que l'on peut espérer faire et voir disparaître. La misère, elle fait partie intégrante et indispensable, alors écoutez bien, elle fait partie intégrante et indispensable du fonctionnement de notre société. Alors ça a été écrit en 2007 par un personnage qui a démissionné d'ailleurs depuis du parti de gauche et qui faisait partie également, ce monsieur Jacques Rigaudiat, qui a été conseiller, et là on s'étonne pas de son discours, de Jospin et de Michel Rocard, et qui en juin 2012 a démissionné du parti de gauche. C'est un fonctionnaire membre de la Fondation Copernic, une fondation qui se prétend développer les idées d'attaque et de se battre contre les autres fondations, les autres think tanks qui seraient plus réactionnaires qu'elles. Alors voilà ce que je voulais dire sur ce premier sujet, c'est-à-dire sur la pauvreté, sur le paupérisme.
On fait un petit peu souffler les auditeurs ?
Ah bah oui, bien sûr.
Une petite respiration ?
Oui.
Alors on rappelle, c'est Chronique Hebdo. Le numéro de téléphone 01 43 71 89 40 Et je vous propose d'écouter Jacques Ivard.
Dis la paix, pâle et soudaine, comme un bonheur longtemps rêvé, comme un bonheur qu'on croit à peine avoir trouvé. Je dis la paix comme une femme, j'ouvrais la porte et tout à coup ses deux bras autour de mon âme et de mon cou. Je dis la paix, cette fenêtre qui battit l'air un beau matin, et le monde ne semblait être qu'odeur du thym. Je dis la paix pour la lumière à tes pas dans cette saison, comme une chose coutumière à la maison. Je dis la paix pour les étoiles, pour toutes les heures du jour, aux tuiles des doigts, et pour toi l'ombre et l'amour. Je dis la paix aux jeux d'enfance, on court, on saute, on crie, on rit, on perd le fil de ce qu'on pense dans la prairie. Je dis la paix, mais c'est étrange ce sentiment de peur que j'ai. Car c'est mon cœur même qui change léger, léger. Je dis la paix, vaille que vaille, précaire, fragile et sans voix. Mais c'est l'abeille qui travaille sans qu'on la voie. Elle vacille, elle est peu sûre, comme un pied de convalescent. Encore écoutant sa blessure, son sang récent. La guerre a relâché ses rênes, la guerre a perdu la partie. Il en reste un son lourd qui traîne, mal amorti. Ce sont les chars vers les casernes qui font encore un peu de bruit. Nous danserons dans les luzernes jusqu'à la nuit. On reconstruira par le monde les merveilles incendiées. La vie aura la taille ronde sans mendier. Par les chimères de notre front. Et l'immense laboratoire où les miracles sont humains. Et la colombe de l'histoire entre nos mains.
Voilà, Chronique Hebdo. Alors, c'était le chant de la paix de Jacques Ivard. Oui, c'est très paisible. Et ça, la paix, ben, on n'y est pas encore. On vous rappelle, il y a eu une émission L'Union pacifiste dans l'après-midi. On vous conseille aussi de l'écouter, comme beaucoup d'autres émissions d'ailleurs, qui rejoignent nos idéaux, nos pensées, nos réflexions, quoi. Et alors, je voulais revenir un petit peu sur des sujets parce que, bon, je n'aime pas trop interrompre Jacques lorsqu'il développe ses idées, mais des fois j'ai des petites choses comme ça à rajouter par rapport à ce qu'il dit. Et notamment, j'avais envie de parler d'un truc qui est assez drôle, c'est ce qui s'est passé à l'Assemblée le 5 novembre. Donc, c'était à propos des chaînes dont on parlait au début de l'émission. Jacques, tu m'entends ?
Oui, oui, oui.
Et donc, il y a la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, qui a déclaré à propos de ces chaînes, vous avez laissé 6 nouvelles chaînes sur la TNT qui vont diluer la publicité. Héritage que nous sommes aujourd'hui dans l'obligation d'assumer. L'état de droit ne nous permettant pas de revenir sur cette décision, a-t-elle souligné. Alors maintenant, quand on vote, tous les gens qui prétendent que la gauche ou l'extrême gauche ou je sais pas machin truc bidule va pouvoir faire quelque chose, là c'est clair, tous les engagements pris sont obligés, l'état de droit ne nous permettant pas de revenir sur ces décisions. Donc c'est pas la peine de nous faire croire quoi que ce soit, et ceux qui veulent y croire, eh ben tant pis pour eux. Là, en tous les cas, c'est ça montre bien que il y a quand même quelque chose qui va pas, quoi. Donc on a beau changer, le changement il est certainement pas pour tout de suite, malgré ce que disent les médias. Alors ce que je voulais passer justement, je sais pas si c'est le moment, Jacques, mais
J'avais pris
quelques extraits du film qu'on vous propose donc d'étudier, de regarder, de commenter pour la semaine prochaine. Alors évidemment, c'est à propos des élections. Et donc j'ai quelques petits enregistrements de la bande son et tout que je vous passerai. Et donc, oui, je voulais revenir aussi sur quelque chose que j'ai dit et que j'ai pas complété. C'était à propos de Jean-Luc Porquet que je citais d'une émission d'une chose qu'on aurait pu dire la semaine dernière. C'est, en fait, pourquoi est-ce qu'il évoquait Radio Libertaire, hein? Parce que vous avez peut-être pas trop compris la relation. C'est qu'il avait fait un article justement sur cette question de l'introduction de toutes ces chaînes à la télé. Et que, alors, l'illustration de Cabu, c'est un homme avec des chaînes aux pieds, des chaînes au ventre, des chaînes au cou, des chaînes aux mains, et quelques chaînes de plus. C'est assez comique. Et donc, son titre, c'était « Vive le bas de gamme », parce qu'effectivement, au plus il y en a, déjà, c'est de la merde. Mais alors, c'est de la merde, ça se dit « It's a crap ». En anglais, je pense. Alors voilà, nous allons vers It's a Crap. Et voilà, est-ce que, après, à part ça, il y avait aussi un autre article qui était assez intéressant, parce qu'on voit beaucoup de gens mâcher des chewing-gums. Et il y avait un article justement à propos de ces fameux chewing-gums, qui, si autrefois, étaient un produit. À base de, je me souviens plus trop, de la gomme, quoi, quelque chose un petit peu naturel. En fait, la consommation mondiale est telle que ben, si vous ne le savez pas et si vous continuez à mâcher du chewing-gum, eh ben, en fait, vous mâchez du pétrole, parce que la plupart des chewing-gums sont faits à base de pétrole. Donc voilà, alors ce ne sera pas écrit sur les étiquettes des chewing-gums, mais maintenant vous le savez. Et bon, moi, j'ai jamais trop apprécié les gens qui ruminent. Mais c'est vrai que de temps en temps, ça arrive qu'on craque un peu pour un chewing-gum. Voilà. Donc, je vais vous faire écouter un petit peu cette bande-annonce de. C'est pas une bande-annonce, c'est moi qui ai coupé quelques petits morceaux, quelques extraits, pour annoncer un petit peu ce film de Pierre Carles, dont on parle quand même depuis au moins le mois de. D'avril ou mai, hein. Et puis dire aussi que vous retrouvez ce genre de sujet, c'est-à-dire de la presse, parce que on n'en a pas parlé, mais Presstalis a été en grève il y a de ça une dizaine de jours encore, hein, et c'est de plus en plus souvent les mouvements de grève dans la distribution des journaux, hein. Donc nous ne parlons pas du Monde Libertaire parce que le matin nous n'avons pas le temps de l'acheter avant de venir, mais généralement c'est Gérard qui s'occupe de cela, mais pendant quelque temps on n'a pas pu trouver ni Le Monde et ni Le Canard, et c'était simplement uniquement sur la ville de Paris, hein. Vous alliez en banlieue, vous pouviez le trouver. Donc voilà, des mouvements de grève. Et donc la presse va mal, et il y a aussi un article, alors je trouvais ça assez intéressant, dans La Décroissance, bien que ce soit un journal qui soit de plus en plus critiqué. Moi je continue à le lire parce que j'y trouve des choses intéressantes, et puis bon, même s'il y a des pensées souvent radicales, je trouve que les pensées radicales sont souvent celles qui font bouger un petit peu les esprits, et au moins ça permet de discuter, d'avoir de la contestation et au moins de discuter, quoi. Voilà, donc il y a un article, il y a eu quatre journalistes qui ont écrit dans la décroissance du. Attendez, je vais vous dire le dernier en date. Donc, vous avez Offensive Libertaire, avec deux journalistes, Chris et Gildas. Vous avez aussi Le Postillon, qui est un journal plutôt local. Vous avez Fakir, hein, que tout le monde connaît, avec François Ruffin. Mais bon, là, c'est pas François Ruffin, justement, qui écrit l'article, c'est Pierre Souchon. Et puis, vous avez aussi CQFD, Gilles Lucas. Et je vous conseille de le lire. Bon, je trouve que c'était bien que quatre journalistes de quatre journaux de la presse, alors certains revendiquent de ne pas être alternatifs. Hein, c'est vraiment de la presse. Et d'ailleurs, le titre de l'article, c'est « Nous sommes la presse ». Et donc, faut voir, ils ont pas du tout les mots tendres pour la presse subventionnée, la presse d'État, la presse perroquet, la presse qui ne fait même pas son travail. Et justement, ils parlent de leur travail, de la façon dont eux envisagent le métier de journaliste, c'est-à-dire à se bouger le cul, à aller auprès des gens et non pas être au service de l'argent. Et d'ailleurs, dans le film de Pierre Carles, il y a un extrait qui est très bien, de, comme dirait Gérard, de Dupont-Tenieux devant... à Canal+, hein, qui dénonce justement cet état de fait, que la presse soit tenue par des gens qui ont des marchés publics, Dassault, voilà, tous ces Rothschild. Gens qui s'enrichissent. Comment ?
Rothschild. Rothschild,
les gens qui s'enrichissent sur le dos de l'argent commun sont en plus les maîtres de cette presse.
Ouais. Bah, Le Monde aussi, hein, Pigas, et Berger.
Le Monde aussi.
Ouais, c'est malheureusement c'est ça. C'est donc on peut dire comme on avait vu le caricaturiste, je ne sais plus son nom, Abba Sivière, qui avait mis
la presse.
Un journaliste officiel et qui disait moi je suis journaliste indépendant et son interlocuteur lui disait ah bon, journaliste indépendant pour qui? Pour qui, effectivement, dans ce métier, on peut dire qu'il n'y a plus du tout d'indépendance d'esprit et que à partir du moment où vous travaillez pour un berger, vous savez, cet actionnaire du Monde qui avait écrit même, parce que dans le journal Le Monde, il y avait eu un article assez sévère sur François Mitterrand.
Il avait dit, mais pourquoi j'ai donné
de l'argent à un journal qui écrit des choses sur lesquelles je suis pas d'accord.
Quoi ça sert d'être propriétaire d'un journal si on peut pas dire ce qu'on pense?
Et surtout c'est pas seulement qu'on peut pas dire ce qu'on pense,
mais surtout que les autres disent
des choses contraires à ce que vous pensez.
Voilà. Alors bon, c'est une petite perle que ce film de Pierre Karl, là. Parce que vous allez voir des Laurent Geoffrin dégoulinant de conneries. Et puis, ça me fait penser à Coluche qui disait « La presse à grand tirage, c'est très bien pour allumer la cheminée. » Et ça, c'est vrai, quand vous êtes dans une maison de campagne, devant un feu un peu humide, et il en faut des journaux pour essayer de sécher le bois humide. Donc voilà, la presse à grand tirage, c'est très bien pour allumer les cheminées. Alors, je vous fais écouter un petit avant-goût donc, de la prochaine émission.
Responsables politiques.
C'est la vérité.
Nous sommes le front, le réseau Ferber les perroquets. On veut les faire taire. Les gens comme Laurent Geoffrin qui passent leur vie dans les médias, qui ont viré leur cutie combien de fois, il faut le compter, mais 30, 40, 50 fois. Et on estime qu'ils sont déjà dans leurs médias. Venir ici à la BNF, c'est encore occuper un espace supplémentaire.
Qui les a invités, c'est la BNF.
Oui, mais nous sommes pollués par ces gens-là, monsieur. Nous sommes littéralement pollués.
Non.
Nous les avons fait taire.
Ce que vous avez fait, c'est honteux.
Non,
c'est honteux.
Non,
c'est antidémocratique.
Ils parlent tout.
C'est antidémocratique. Excusez-moi, vous avez saboté le truc. C'est extrêmement grave. Voilà, on a une table ronde, vous pouvez débattre.
Mais une table ronde entre Maurice Safran et Laurent
Geoffrin. Vous n'êtes pas obligé de venir.
On vient pour les faire taire.
Vous avez réussi, bravo, merci beaucoup. C'est très démocratique.
Eh bien, merci.
Je vous félicite.
Merci à vous.
Au revoir.
On va voir ce qui s'est passé.
Il y en a qui sont en vrai, on va donner la paix.
Je pense que ça marchera.
Laissez-le là.
Je veux savoir pourquoi il s'est fait malgré la solitude.
service. Faites le
Donc voilà, c'était un petit extrait de Hollande, DSK, etc., dont on parlera la semaine prochaine. Et donc là, c'était une partie d'une intervention. Vous avez peut-être, pour ceux qui connaissent, entendu, je crois que c'est Michel Fisbin, avec sa grande voix, donc qui avait organisé une intervention à la BNF, où vous avez les grands pontes de la du journalisme, dont notamment Jules Geoffrin, qui viennent expliquer ce qu'est le journalisme. Et donc j'ai pas le nom en tête non plus de celui dont on entend à répétition dire mais il n'y a plus aucune connivence entre le monde politique et le journalisme, et qui répète ça plusieurs fois. Non, mais ça c'est un montage, il le dit qu'une fois. En fait, ils sont complètement sincère et je sais pas, c'est assez curieux. Ils croient vraiment à ce qu'ils racontent. Ils sont vraiment indépendants, et vous entendrez Jules Geoffrin dire mais bien sûr on peut prendre parti dans un journal puisque il y en a tellement. Et vous aurez d'autres séquences aussi assez savoureuses, notamment de la suffisance d'un, j'ai oublié son prénom, d'un Demorand vis-à-vis de Julien Brigaud, et vous, vraiment c'est assez épouvantable, cette suffisance, ce manque d'ouverture d'esprit, ce désir de ne pas se remettre en cause et de mépriser les gens, quoi, parce que il lui reproche par exemple parce qu'il dit qu'il ne lit pas Libération quotidiennement, il le transforme tout de suite en critique radicale. Ah ben si vous lisez pas Libération, pourquoi vous ne pouvez pas en parler, il faut lire les journaux et tout. Donc moi je voudrais bien savoir si Nicolas Demorand lit tous les journaux de droite, extrême droite, Cato et tout, pour pouvoir se permettre d'en parler. Voilà. Jacques, tu peux.
Bon, et eh bien
tu
alors.
Peux prendre la relève.
Oui, voilà, deuxième sujet. À propos de.
Fukushima, peut-être, non?
Comment?
Tu parleras pas un petit peu du nucléaire?
Oui, mais pour l'instant, on en est au deuxième sujet qui est lié au premier, c'est-à-dire au fond cette connivence entre le pouvoir socialiste de Monsieur Ayrault et de Monsieur Hollande, de Monsieur Sapin aussi, et les banques. Et ce que je voudrais dire à propos des banques, c'est que même, indépendamment de ce que je disais ce matin à propos de l'intervention des Pinsans Charlot à France Inter pour souligner l'inefficacité et même l'espèce de trahison morale, mais enfin c'est vrai qu'un un responsable d'État n'a aucune idée morale, aucun respect pour la morale, qui disait bah au fond on considère comme légitime ce qui est le vol, hein, c'est-à-dire il disait le fait de dire on va séparer les banques de dépôt qui sont utiles et qui prêtent de l'argent qu'elles ont récupéré auprès des particuliers ou des entreprises et qu'elles vont investir dans ou prêter à d'autres entreprises ou à d'autres particuliers, eh bien on va dissocier ces banques de dépôt des banques d'affaires. Hein, c'est-à-dire celles qui spéculent, ça veut dire que on considère comme normal la spéculation et qu'on considère que effectivement elle est utile. Or, on a vu où elle menait. Hein,
c'est-à-dire au mépris des 400 ouvriers qui sont morts dans les usines en Asie, Vous dites 200 au Bangladesh aussi. Hein.
Oui, mais ça...
Tout ça pour spéculer. Ça,
voilà, oui, c'est-à-dire qu'on fait travailler des gens dans des conditions épouvantables et donc...
Et pleurer sur les enfants qui sont morts en Amérique.
Oui, c'est ça, mais pas sur les 400 ouvriers morts dans différentes régions au Bangladesh, mais pas seulement au Bangladesh. Il y avait aussi un rappel d'un accident qui était survenu aux États-Unis où il y avait eu également une centaine de morts dans une usine qui était aussi pratiquement très mal construite et très mal conçue. Mais alors là, ce que je voulais ajouter dans ce domaine, c'est que un ex-banquier qui juge très sévèrement le texte que le Conseil des ministres devrait examiner mercredi, c'est-à-dire hier. Et ce banquier s'appelle... Et ce banquier, Thierry Philippona. Thierry Philippona. Voilà, cet ex-banquier juge sévèrement donc le texte que le Conseil des ministres devait examiner jeudi. Monsieur Hollande a vidé la réforme bancaire de sa substance. Voilà, Monsieur Hollande a vidé la réforme bancaire de sa substance et le journaliste lui demande « Que pensez-vous du projet ? Est-ce une bonne réforme pour vous qui plaidez auprès des institutions européennes ?» pour une finance au service de la société. Et la réponse de l'ex-banquier, c'est de dire non. Cette réforme, ce projet de réforme, il s'agit d'une réforme en trompe-l'œil. Voilà. Alors, le trompe-l'œil, hein, on peut dire que là aussi, tous ceux qui ont voté socialiste, je parle pas des autres, mais qui espéraient un changement, ont voté pour des trompe-couillons. Alors, voilà, quand on est couillon, on se laisse piéger par des gens qui prétendent faire des réformes en trompe-l'œil. Le texte se borne à cantonner certaines activités spéculatives dans une filiale. Hein, c'est-à-dire que, non seulement, comme le disait Vincent Charlot, on justifie cette activité spéculative qui conduit là où on est aujourd'hui, c'est-à-dire dans des systèmes de crises financières qui sont dues uniquement aux spéculations bancaires et qu'on fait porter sur le poids des États et notamment des contribuables de ces États, hein, on considère ça comme légitime. Et là, aux États-Unis, apparemment, c'est bien distingué d'après ce que dit cet ex-banquier. Mais nous, dans le projet de réforme, on donne cette activité à une filiale. C'est-à-dire qu'au fond, on maintient l'activité, mais on donne ça à une filiale d'une banque qui, évidemment, ne se privera pas de rassembler les deux parties de ses activités, c'est-à-dire le dépôt d'un côté et puis le jeu du casino de l'autre. Donc, voilà ce que critique cet ex-banquier. Le projet de réforme ne traite pas la question essentielle qui est la séparation complète des activités de banque commerciale, hein, de banque des dépôts, hein, de celle qui négocie sur le marché financier pour les clients des banques ou leurs comptes propres, l'activité de banque commerciale qui consiste à collecter des dépôts pour faire des crédits. Et celle-là est indispensable à la société. Mais pour le reste, la première, celle qui est simplement spéculative et qui ne fonctionne que pour enrichir les banquiers, les actionnaires des banques et puis les déposants, ceux qui effectivement veulent jouer. Parce qu'évidemment, la banque de dépôt, elle va dire, ah ben oui, vous avez déposé cette somme-là. Est-ce que vous acceptez qu'on se lance dans la spéculation sur des actions et sur des projets qui vous rapporteront? Donc, qu'au fond, le fait de dire on va séparer ces deux activités, c'est d'une certaine façon complètement artificiel, c'est un trompe-l'œil, et encore plus si on ne supprime pas complètement la, et on ne coupe pas complètement ces deux parties, c'est-à-dire si on laisse finalement une banque des dépôts avoir une filiale qui fait qui fait de la spéculation. Donc je crois que là on a une démonstration éclatante de ce que c'est que un pouvoir d'État qui est entièrement à la solde. Tout à l'heure je le disais à propos du MEDEF et de la pauvreté, et ben là c'est à propos des banques, il est entièrement à la solde des banques, et comme les banques n'ont pas du tout envie d'ailleurs c'est pas valable seulement sur le plan français, c'est valable aussi sur le plan européen, n'ont pas du tout envie qu'elles ne puissent plus spéculer d'une façon aussi éhontée et faire payer aux contribuables des pays en crise leur jeu malsain, eh bien effectivement on peut dire que le pouvoir est entre les mains de ces banquiers. Et quand on dit que cette banque spéculative est non seulement illégitime, mais est un mécanisme de corruption interne qui est le propre du capitalisme, eh bien on a tous les jours dans la presse, on a tous les jours des exemples, parce qu'il y en a qui se font prendre, par exemple perquisition spectaculaire chez Deutsche Bank. Une banque allemande, le parquet de Francfort a lancé 5 mandats d'arrêt contre des salariés de la banque, de la Deutsche Bank, hein, parce que effectivement, ils ont l'enquête qui portait sur une fraude fiscale concernant des transactions sur des permis d'émission de CO2. Alors des permis d'émission de CO2. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on a souvent critiqué ici, en disant, mais comment peut-on faire jouer les banques et les banquiers sur des procédés tout à fait inacceptables? Voilà, alors je pense que les prochains sujets sur l'écologie et sur les religions seront abordés dans l'émission de la semaine prochaine ou dans celle qui suivra et qui aura lieu évidemment au début de l'année 2013. Alors je pense que il est midi moins 3 et que Marlène est là pour son émission. Elle n'était pas absente la semaine dernière. Et donc je vous dis, et Josie aussi va le dire, je vous dis à la semaine prochaine avec nos invités, donc Pierre Lecarle et Julien Brigaud, pour nous parler de ce que c'est qu'un médias officiels aujourd'hui, et puis de leurs films évidemment. Ils en ont écrit d'autres, hein. Pierre Carl avait aussi écrit Les Chiens de Garde, hein, ou Les Nouveaux Chiens de Garde, hein. On appelle ainsi les Laurent Geoffrin ou les Apathy, ou enfin tous ces personnages que vous voyez tous les jours sur la télévision, que vous écoutez à la radio, hein, comme Patrick, je ne rappelle plus son nom, enfin, qui sévit sur Radio Libertaire. Mais enfin, il y en a tellement qu'on verra ça la semaine prochaine. Bon, alors je laisse la parole et la musique, hein, puisqu'il est maintenant midi moins deux. Je pense qu'on va laisser le micro à Marlène, et donc je souhaite que on puisse passer, en attendant la fin définitive de notre émission, je souhaite qu'on puisse passer un petit peu de musique, n'est-ce pas? Et je crois que Josie est au téléphone et qu'effectivement, elle a du mal à venir assurer la technique.
Je peux le faire,
pour
le
finir.
Jacques.
Alors, Marlène, tu passes ton morceau, alors, hein? Voilà, et ben je vous salue et à la semaine prochaine.